Ce nouveau rendez-vous est assez simple en fait.
Tous les soirs, on vous invite dans notre salon où vous attend notre bande de passionnés.
C'est eux qui vous commenteront l'actualité culturelle et artistique du jour.
Et puis, pour plonger dans la nuit et voyager plus loin, nous recevrons des hommes et des femmes sacrément intéressants. Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs,
voilà.
Des conchiliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h. France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, il est là, c'est à lui.
Allô Daniel, ici Vincent, à Marseille, un petit reportable. On vient de terminer la manifestation avec environ 400 personnes sur la commémoration du 17 octobre. Ça s'est terminé sur le Vieux-Port. On pose des bougies dans l'eau. Ça tombe bien, l'eau est très calme. Il y a des roses blanches qui ont été jetées. C'était très émouvant. Et je voulais te passer à l'écoute quelqu'un qui voulait te laisser un message de remerciement.
Bonsoir Daniel Mermet, c'est Fatima de Marseille qui vous écoute depuis des années. Je vous remercie pour toutes vos émissions. Aussi, je vous remercie pour d'avoir organisé aussi une émission au sujet du 17 octobre et vous souhaite bonne continuation, longue vie à vous et à vos auditeurs. Merci, je vous embrasse tous.
Au sujet de votre émission, c'est plutôt scandaleuse parce que les gens que vous soutenez, certains abattaient les policiers dans le dos, dans le métro, et les militaires. Et j'y étais, donc je sais ce qui s'est passé. Donc ces gens-là, ils manifestaient en France, et ils étaient nos ennemis. Ce que beaucoup de pays ne supporteraient pas chez eux.
Le 8 mai 1945, sous la responsabilité politique du gouvernement provisoire, issu du Conseil national de la résistance, on massacrait entre 15 000 et 30 000 Algériens à Sétif. Algériens qui réclamaient ce qu'on leur avait promis pour combattre le nazisme, l'indépendance. Le 17 octobre 61, sous la responsabilité politique du gouvernement de De Gaulle, mythe folklorique national, on réprimait dans la plus grande violence une manifestation pacifique des travailleurs algériens. Dans les deux cas, c'est le même État français. Cherchez le lien. Roland, élu républicain, qui ne chante pas la Marseillaise, mais l'international.
France 2 se rappelle du 17 octobre 1961 et des événements parisiens. David Pujadas parle de dizaines de morts. Et pour preuve, la rédaction est allée là où personne d'autre n'a le droit d'entrer, pas même les historiens, les archives de la police. Et voilà, on nous raconte que, eh bien oui, il y a eu des événements et la police a riposté. Et puis bah voilà, il y a eu quand même des morts. Mais le général de Gaulle a sévi après tout ça, il a calmé le préfet de police, et puis, basta. Putain, ils ont des couilles, France 2.
Par pitié, arrêtez avec cet anniversaire qui est lamentable, c'est vrai, ce n'est pas beau. Mais qu'est-ce qu'on a passé en Algérie? C'est quoi ces massacres? C'est rien à côté de ce qu'on a vu. 5 personnes à mes pieds, dont un militaire avec les intestins dehors. J'étais dans le bar de mon père avec une grenade qui nous est tombée dessus. Un petit cousin qui a eu à El Alia, sa femme enceinte, éventrée, avec le bébé sorti. 11 personnes de sa famille tuées devant lui. Il était caché derrière une malle. Arrêtez les massacres. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un massacre. Vous ne l'avez pas vu. Je l'ai vu, moi, le massacre. 5 militaires, dont mon père, qui est mort avec des éclats de grenade à 80 ans, avec des éclats de grenade dans son bras et dans son cou et dans sa jambe. Arrêtez les massacres. Vous ne savez pas ce que le mot massacre veut dire.
Je voulais témoigner sur mon grand-père qui, pendant la dernière guerre, avait fait la rafle du Vel'Div. Il a été arrêté à la Libération, il a été interné 6 mois, puis libéré et réintégré dans la police. Et ce brave homme, après, a fait partie des flics qui ont cassé l'Algérien pendant les événements d'octobre dont vous parliez hier. Voilà, je suis sa petite fille et il y a deux dates que j'oublie jamais, c'est celle d'octobre et celle de juillet pour la rafle du Vel'Div.
Bonjour à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Je n'ai pas connu les événements du 17 octobre 61. Je suis né bien après, alors pour nous qui n'avons pas connu tout cela, c'est très touchant d'entendre tous ces témoignages. Alors, rien que pour cela, merci à vous d'en parler. C'était Sébastien, au revoir.
Paris, 17 octobre 2011, à l'angle du boulevard Bonne Nouvelle et de la rue Poissonnière. Toute une foule de portraits, de pancartes. Alors il y a Lucif Lakhdar, noyé le 17 octobre 1961. Messaoudi Saïd, disparu le 17 octobre 1961. Saïd Ani Ibrahim, tué par balle le 20 octobre 1961. Et comme ça, des centaines de silhouettes blanches qui sont brandies par les manifestants en ce 17 octobre 2011.
Derrière la banderole, ce serait bien pour qu'on puisse réduire l'écart entre la banderole et le camion, s'il vous plaît.
On part, la manif part depuis le Rex, le cinéma Le Rex, sur les grands boulevards. Et il y a 50 ans, c'était un concert de Sidney Bechet. Il y avait un concert de Sidney Bechet. Il y avait des gens qui faisaient la queue là, devant le concert. Et il y a des gars qui se sont fait tuer là. Des manifestants algériens qui se sont fait tuer là. Il y a une photo fameuse qui représente un, où on voit un gars, un manifestant, dans une flaque de sang, avec les gens qui font la queue pour le concert de Sidney Bechet. En tout cas, il y a beaucoup de monde, hein. C'est assez bouleversant. Alors la manif va descendre à travers le sentier, la rue Réaumur, et après Beaubourg, et ensuite Notre-Dame et le pont Saint-Michel.
Et là, il y a une banderole avec la fameuse photo des quais, avec l'inscription sur le bord du quai, ici on noie les Algériens.
C'est un tag qui a été fait quelques temps plus tard, et on a retrouvé le gars qui a fait la photo. Ici, on voit les Algériens.
Je viens pour la mémoire de mon oncle qui a été jeté à la Seine et qui est décédé. Idriss, il a été repêché au canal de Lourdes. Voilà. Moi, j'étais gamine, toute petite.
Et vous attendez quoi de cette marche, alors ?
Que la vérité soit faite.
Ouvre les archives.
Bah,
ouvre
c'est les archives. Grave. Ouvre les archives sans plus, hein. Que la vérité puisse être faite. Voilà, sans plus.
L'État 50 ans, ça suffit, ouvrez les archives. Là, le cortège avance. On est devant l'hôtel de ville de Paris, sur le Grand Parvis, devant l'hôtel de ville de Paris, qui, il faut le rappeler, a été reconstruit après que les communards aient brûlé le précédent. Faut jamais oublier où on est quand on passe devant l'hôtel de ville de Paris. Et là, on va vers Notre-Dame. Mais sur le parvis de Notre-Dame, il y a l'hôtel Dieu, le grand hôpital de l'hôtel Dieu, où beaucoup de blessés ont été accueillis, recueillis il y a 50 ans. Et puis, il y a la préfecture de police de Paris. Il faut rappeler que le préfet était Maurice Papon, ça n'est échappé à personne. Mais dans la cour de la préfecture de police de Paris, je ne sais pas si on va passer devant, mais un nombre très important de manifestants avaient été enfermés et tabassés et tués. Selon les recherches, entre 10 et 50 manifestants qui auraient été tués dans la cour de la préfecture de police de Paris. Alors on va voir si la manif passe devant ou non.
Alors un parcours qui a été âprement discuté par les organisateurs. Alors Mehdi, raconte-nous un peu la négociation avec la préfecture, quoi.
Oh, mais la préfecture voulait nous faire un grand détour dans Paris. Ça aurait été Paris by night. Donc ils ont cédé vendredi fin d'après-midi sur ce trajet-là. On a besoin d'occuper l'espace public, on a besoin de manifester dans les lieux qui ont été les lieux de il y a 50 ans, quoi, de nos parents, quoi. Et il y a toutes les générations, quoi. Il y a les Algériens, il y a les Français, il y a les jeunes, il y a les vieux. Et c'est une belle manifestation.
Et ça y est, on arrive sur le pont Saint-Michel.
Alors vous, c'est qu'on appelle la troisième génération, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui alors?
On est là pour pas que ça tombe dans l'oubli et pour que la France reconnaisse enfin que c'est un crime d'État. Chose qu'elle n'a jamais voulu reconnaître. Et aujourd'hui, nous, troisième génération, on est là pour commémorer nos ancêtres, nos grands-parents qui ont combattu pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui être là et manifester en leur nom.
Votre prénom ?
Jazia.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans.
Voilà la manif d'hier à travers Paris, une belle et émouvante manifestation, 5000 personnes. On marchait depuis les grands boulevards jusqu'au pont Saint-Michel en réclamant là que la France reconnaisse qu'il s'agit d'un crime d'État, que ce 17 octobre 1961, vous l'avez entendu à nouveau dans les messages d'aujourd'hui, ceux d'hier, et c'est à chaque fois qu'on évoque ce pogrom, et aussitôt des auditeurs partout disent « oui, vous parlez de ça, mais il faut aussi parler de la rue du Sli, il faut également parler des massacres de juillet 62, etc., et des autres massacres ». Alors on va le faire aujourd'hui, je l'avais promis, on va retrouver Benjamin Stora, l'historien que vous connaissez, bien sûr, et que nous avions rencontré en 1997. En 1997, on avait fait une série d'émissions sur ce sujet, et ça avait été les mêmes résultats, peut-être encore plus violents à l'époque, les mêmes effets, les mêmes réclamations, les mêmes souffrances aussi dans ces voix et dans ces témoignages. J'en avais demandé à Benjamin Stora de venir répondre à travers le regard d'un historien engagé, bien sûr, il n'y a pas d'historien qui ne le soit pas plus que de journaliste d'ailleurs, sur ce qu'il pouvait nous dire et nous apporter sur cette histoire effectivement toujours douloureuse et dont les cicatrices se rouvrent à chaque anniversaire. Donc on va retrouver cette émission avec Benjamin Stora. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, mais auparavant, à toutes les réclamations d'hier, à ces slogans scandés par toutes ces générations dans la rue, voilà la réponse qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.
17 octobre 61, il y a 50 ans, manifestation d'Algériens réprimés dans le sang à Paris. La France doit-elle présenter des excuses à l'Algérie?
ITL, 18 octobre 2011.
La France ne doit certainement pas présenter des excuses à l'Algérie. Ceci dit, la France doit faire face à son passé.
Claude Guéant, merci, bonne journée.
Bon prix.
Bonjour, notre collègue du lycée Jean Moulin à Béziers qui s'est immolé est décédé. Nous sommes tous bouleversés, voire traumatisés. Nous sommes âgés depuis 2 jours et avons refusé d'accueillir les élèves en classe et décidé d'une grève illimitée jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Mardi matin, âgés, 14h départ pour une manifestation académique au rectorat de Montpellier. Mercredi, les obsèques, peut-être. Jeudi 20, 10h, débrayage, commémoration de ce drame dans tous les établissements de France. Nous souhaitons une mobilisation générale pour que la souffrance au travail cesse et que de tels drames ne se renouvellent plus. Lise a dit en son flamand « Je le fais pour vous ». Luc Châtel a menti. Elle n'était pas suivie médicalement, ni fragile, mais consciencieuse, compétente, aimant son travail et courageuse. Nous comptons sur vous tous pour que l'éducation nationale ne devienne pas France Télécom.
Salut Montalbanais. Aujourd'hui, mardi 18 octobre, nous nous retrouvons pour notre café repère du mois, comme à notre habitude, à 20h30 à la brasserie Le Régal au centre-ville de Montauban. Ce soir au programme, action et représentation citoyenne des élus. À qui prêtent-ils leurs oreilles et leurs voix? Alors rendez-vous ce soir au Régal à 20h30 à Montauban. Salut!
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base que j'y suis, avec Benjamin Stora, la gangrène et l'oubli.
Flight number 2, arriving from New York.
Un nouveau convoi t'emportera vers l'intérieur, vers l'inconnu. Quelle route prendras-tu?
Une génération de jeunes Français apprend la guerre.
Après la grande guerre du grand-père, la drôle de guerre du père, voici la sale guerre du fils. La guerre d'Algérie qui ne dira jamais son nom.
Ici sous-lieutenant de l'AIE, de la 2e compagnie du GT-543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte.
Bonjour à toute la famille et à tous les amis du Havre.
Et particulièrement ma fiancée Eliane.
Ainsi que ma fiancée chérie. Bien le bonjour aux amis.
J'embrasse bien fort ma petite femme chérie.
Je n'oublie pas non plus mes petites camarades.
Ainsi que, et aussi mes meilleurs amis, monsieur et madame Latap.
J'espère avoir bientôt l'accueil pour être de retour en France.
Il est midi, je quitte ma cuisine pour venir embrasser mes parents. Le soleil brille. Le moral est bon, je vous embrasse tous affectueusement.
Tout va bien et j'espère bientôt vous revoir, lieutenant Lacquille.
Je profite de l'occasion inattendue qui m'est offerte pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents et à Perpignan des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens.
Mais dès la nuit tombée, le contingent découvre la guérilla.
Bougez pas, hein. Bougez pas, ne tirez pas.
Qu'est-ce qui a tiré, là? Qu'est-ce qui a tiré? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont là? Derrière cet arbre? C'est cette merde là, vous les avez vus derrière l'arbre?
Deux millions de Français entre 1954 et 1962, en effet, sont partis là-bas, ont fait la guerre. Aux Algériens, guerre qui n'a jamais porté ce nom de guerre. Je lis là deux lignes de votre livre « La gangrène et l'oubli » Benjamin Stora. On a été un peu débordé pour tout dire. On a voulu faire une évocation du 17 octobre 61 et les auditeurs ont été très très nombreux et très passionnés à nous dire « Oui, mais alors si vous parlez de ça, il faut parler d'autre chose, il faut prendre un recul. » Et ils l'ont dit souvent d'une manière forte et d'une manière très très émotionnelle. Alors voilà pourquoi on vous a demandé de venir. Pourquoi est-ce que c'est si émouvant en ce moment ?
Ah, ce sont les mystères de la mémoire. C'est très difficile de savoir pourquoi et quand la mémoire va exploser, il va y avoir des déflagrations un petit peu partout. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que la guerre d'Algérie terminée en 62, il n'y a jamais eu de consensus, de réconciliation de mémoire. Donc cette guerre, elle a toujours continué après dans les têtes et dans les cœurs. Donc il y a plusieurs groupes qui sont toujours là dans la société française et qui vivent avec ces blessures et qui continuent de gratter cette cicatrice qui fait mal, qui s'appelle l'Algérie. Il faut les rappeler, c'est naturellement le million de pieds noirs qui est parti, ce sont les 2 millions de soldats français qui sont allés en Algérie entre 55 et 62. C'est évidemment les 400 000 immigrés algériens en France. Ce sont bien sûr les harkis qui ont combattu aux côtés de l'armée française et qui sont pour certains d'entre eux revenus en France et d'autres ont été massacrés. Bref, il y a toute une série comme ça de groupes extraordinairement importants dans la société française qui vivent avec le sentiment de n'être pas entendus. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on évoque une date qui touche à la période de la guerre d'Algérie, alors d'autres dates, d'autres périodes, d'autres situations arrivent à la surface de la mémoire.
Alors si vous voulez, on a enregistré, les auditeurs ont enregistré sur notre répondeur des messages, vous les écoutez et puis vous réagissez, vous essayez de nous éclairer.
Bonjour, j'aurais voulu poser une question à monsieur Benjamin Stora. Papon a déclaré que les victimes du 17 octobre 61 étaient victimes des règlements de compte entre le MNA et le FLN. Est-ce que le MNA ne serait pas une créature de l'armée française? Merci.
Voilà, Benjamin Stora. Une auditrice évoque le MNA par rapport au FLN et se demande si des fois le MNA n'aurait pas été alors manipulé en somme par la France. Alors, faut peut-être rappeler un petit peu tout ça. Qu'était le MNA, le FLN, les manipulations, oui, etc. Non, parce que c'est
absolument. Il faut essayer de passer de la mémoire, de la blessure à l'histoire. Alors ça fait jamais plaisir aussi de passer à l'histoire parce que on énonce des choses qui sont quelquefois difficiles à entendre. Alors le MNA, c'est-à-dire le mouvement national algérien, était animé par Messali Hadj. Messali Hadj qui lui-même a été le père du nationalisme algérien dans les années 1920-1930, puisqu'il a été l'un des premiers à revendiquer l'indépendance pour l'Algérie. Il faut se rappeler à l'époque, il y avait d'autres leaders politiques algériens comme Ferhat Abbas ou Ben Badis qui était un religieux. Donc il y avait trois hommes donc qui composaient le paysage du nationalisme algérien. Et puis des jeunes de son organisation, c'est-à-dire des gens comme Mohamed Boudiaf, Ossinaït Ahmed ou Ahmed Ben Bella, ont décidé de passer à la lutte armée. Je schématise de manière extraordinaire. Ils s'affrontent donc au père du nationalisme algérien, et ces hommes comme Boudiaf ou Ben Bella ou Aït Ahmed vont créer donc le Front de Libération Nationale, le FLN, qui va déclencher le 1er novembre 54 contre la France. Et à partir de là, l'affrontement va être très très dur entre le MNA de Messali Hadj et le FLN. Cet affrontement va démarrer véritablement en 1956 en Algérie. Il y aura des affrontements très très durs, en particulier en Kabylie ou dans la Mitidja, entre les maquis du FLN et les maquis du MNA de Messali. Il y aura des massacres épouvantables qui seront commis, en particulier le massacre dans le village de Melouza le 28 mai 1957 de près de 400 villageois soupçonnés d'être favorables ou sympathisants du MNA et qui ont été égorgés par des hommes essentiellement, par des unités de la LN. Ce sont des choses absolument épouvantables que ces règlements de compte entre le FLN et le MNA. Le MNA, à son tour, bien sûr, pratiquant aussi le terrorisme urbain contre d'autres militants du FLN. C'est une page très sombre, très noire, des déchirements intérieurs du nationalisme algérien. Et en 1958, le FLN l'emporte sur le MNA, sur le plan militaire et sur le plan politique et diplomatique, puisque la plupart des pays reconnaissent essentiellement le FLN comme interlocuteur politique, y compris le général de Gaulle, et les militants du MNA et le vieux militant Messali est mis à l'écart de la scène politique algérienne. Ce qui signifie quoi? Ça signifie qu'en 1961, il n'y a pratiquement plus de militants du MNA à Paris et dans la région parisienne. C'est le FLN qui l'a emporté. En fait, l'affrontement qui existe entre Algériens, eh bien c'est un affrontement entre, en 1961, entre le FLN et les groupes de harkis de Paris. À ne pas confondre avec les harkis qui sont en Algérie et qui combattent avec l'armée française. Oui. C'est pas du tout la même chose. Très très compliqué la guerre d'Algérie. C'est pas simple. D'ailleurs, c'est une espèce de leitmotiv lorsqu'on dit l'Algérie, on dit c'est toujours très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a une histoire intérieure du nationalisme algérien et puis il y a une histoire française qui est aussi très complexe dans son attitude envers ce nationalisme algérien. C'est-à-dire pourquoi la France, à partir de 58 par exemple, décide de choisir le FLN comme interlocuteur politique et non pas le MNA. Ça, c'est un problème français.
Est-ce que l'Union soviétique joue un rôle là-dedans? Non.
Oui, il y a les Américains.
Il faut penser que c'est la guerre froide.
Bien sûr, absolument. Il faut situer cette guerre dans un contexte international en deux mots. Il est évident que les Américains, comme les Soviétiques, essayent de déloger l'influence française de l'Afrique du Nord à cette époque-là. C'est bien évident. Donc les Américains poussent à la reconnaissance les premiers du FLN, dès 1957, par une déclaration de Kennedy. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Et le camp socialiste va ensuite emboîter le pas et reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, en septembre 58. Donc la France se trouve sur une position politique et diplomatique très défensive par rapport à la pression qu'exercent les deux super grands, USA et URSS, au moment de la guerre d'Algérie.
Allez voir le préfet, demande à lui s'il réalise que l'indigène se mobilise, reconquis ce qui jadis lui appartenait avant que les Français ne débarquent, ne viennent s'installer chez lui. Dans les provinces algériennes remplies d'indigènes qu'il fallait civiliser, amener à la lumière, il s'improvisait bienfaiteur, parler avec un cœur de pierre, une main de fer pour réprimer l'indigène. Révolté, pouvait accepter pareille humiliation, mais qui fut ni fusillé au peloton d'exécution ou bien égorgé dans un champ. La solution pour régler le sort des dissidents qui pensaient tout haut était explicite. Expédié là-haut l'indigène, pire que le régime de Mao, l'indigène connu tous les maux de la colonie, les douleurs, la souffrance, les pleurs, énormément de violence.
Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, le 28 septembre.
Le gouvernement français admet désormais que l'Algérie sera nécessairement indépendante.
L'Algérie a pris rendez-vous avec la France.
Les 600 000 livres de la bibliothèque de la faculté d'Alger brûlent. 130 kilos de plastique explosent dans l'hôtel de ville.
Le barrage de Darnina saute. Les écoles sont incendiées. Des obus de bazooka tombent sur la radio en plein journal parlé.
Alors, amis, des attentats. Hein.
Voilà, c'était le point de l'affaire algérienne aux premières semaines de la 8e année de la guerre en Algérie et à la fin de l'année 1961.
Nous parlons beaucoup des événements de 61, concernant le FLN. J'aimerais aussi que, pour la mémoire de la France, on n'oublie pas le 5 juillet 1962 à Oran, où il y a eu plus de 1500 personnes qui ont été enlevées et tuées par les Algériens. Merci, au revoir.
Bonjour, Jean-Claude Ferrer de Perpignan. Je m'adresse à M. Stora, qui, je crois, est originaire d'Oran. Pourriez-vous rapporter les événements qui ont ensanglanté la communauté française à Oran le jour du 5 juillet 1962 ? Dites aussi comment ces Algériens qu'on dit humains ont joué au ballon avec la tête tranchée de Français tués. Soyez honnête, vous racontez avec beaucoup de précision la journée du 17-10-61, mais ne soyez pas amnésique en oubliant les événements qui ont fait disparaître des personnes dont la famille n'a jamais pu savoir leur destin. Merci.
Alors, Benjamin Stora, à vous, sur ces dates, 17 octobre, 5 juillet 62, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça?
Oui, alors d'abord, moi je suis pas originaire d'Oran, je suis né à Constantine, dans l'Est algérien. Hein. C'est une petite précision personnelle.
Quel âge vous aviez au moment de la guerre d'Algérie?
Je suis né en 1950, donc j'ai quitté l'Algérie, j'avais 12 ans. D'accord. Donc, j'ai quitté l'Algérie le 16 juin 1962. Sur les événements d'Oran, j'ai consacré un chapitre de mon ouvrage, La gangrène et l'oubli, aux enlèvements d'Oran, et ainsi qu'une page entière dans le journal Le Monde, sur les enlèvements d'Oran, que je mentionne à partir de toute une série d'enquêtes, de sources et de témoignages, notamment des archives militaires. Bien, je ferme cette parenthèse. Il y a un travail historique qui s'accomplit, qui se fait. Le problème, c'est de ne pas opposer telle mémoire à telle mémoire. C'est-à-dire la mémoire du 5 juillet 62, c'est-à-dire celle des pieds noirs, à la mémoire du 17 octobre 61, c'est-à-dire celle des immigrés, opposée à la mémoire de ceux qui ont combattu contre la bataille d'Alger, en particulier la torture contre la bataille d'Alger, c'est-à-dire ce qu'on appelle les porteurs de valises, mémoire aussi conflictuelle de celle des appelés d'Algérie, qui ont le sentiment de ne pas être pris en compte. Bref, il y a toute une série de dates de la guerre d'Algérie qui viennent se superposer les unes sur les autres et qui, à chaque fois, renvoient à une mémoire cloisonnée, qui ne veut pas rencontrer l'autre.
C'est ça.
Alors ça, c'est très compliqué. Alors, simplement précision, le 5 juillet 1962, nous sommes dans une situation de proclamation de l'indépendance en Algérie. Le GPRA devient de plus en plus minoritaire,
le gouvernement provisoire
de la République algérienne, qui donc doit théoriquement prendre légalement le pouvoir, se trouve en fait écarté de la scène politique à la suite d'un conflit interne aux nationalistes algériens. C'est en fait une alliance entre Ben Bella et Boumdjène qui écarte le GPRA du pouvoir. Cette question est très importante parce qu'elle explique aussi la vacance politique du pouvoir en Algérie. Je dis cela aux auditeurs qui disent toujours il faut replacer le contexte historique. Alors, plaçons-le, ce contexte historique. Le contexte historique, c'est le fait que les Algériens ne sont pas homogènes politiquement. Il y a un affrontement terrible entre ce qu'on appelle le groupe de Tlemcen en 1962 et le GPRA dirigé par Benredda. Donc il y a une vacance politique du pouvoir en Algérie le 5 juillet 62. À partir de là, tout est possible. Oran est une très grande ville européenne en 1962. Oran a été un très grand bastion de l'OAS pendant très longtemps, pendant 2 ans. C'est une grande ville européenne. C'est une grande différence d'ailleurs avec l'Est de l'Algérie, où l'OAS était très faiblement implanté, comme Constantine par exemple. Donc Oran a été cette grande ville partisane de l'OAS. Bon, je suis désolé de prendre un petit peu de temps, mais c'est très important.
Vous avez tout votre temps.
À partir de là, la population musulmane est très faiblement encadrée par le FLN à Oran. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un faible encadrement politique de la population musulmane à Oran. Et tous les excès débordements peuvent être possibles dans cette journée anniversaire, proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Et effectivement, à Oran, ce jour-là, il y a eu des exécutions, des chasses à l'homme d'Européens dans la ville d'Oran, ce 5 juillet 62. C'est un fait absolument tragique, terrible, cruel, et qui est une date absolument sinistre et tragique de l'histoire de France. C'est bien évident. Bref, nous sommes dans une situation d'anarchie politique du côté des Algériens, d'immobilisme politique du côté des Européens, et donc tout est possible du point de vue des tueries, des excès, de la cruauté, de ce qui va se passer au niveau de la revanche, par rapport à toute cette guerre, par rapport à l'OAS, etc. Et ça c'est terrible, parce qu'il y aura effectivement des centaines d'Européens qui vont être enlevés à Oran, Il y a une commission qui a été mise en place d'ailleurs à partir de 1962 en France pour essayer de savoir quels étaient ces disparus d'Oran. Et il y a toute une série d'enquêtes et de recherches qui ont été menées par d'autres chercheurs sur les disparus d'Oran, comme Geneviève de Ternant qui a fait un livre sur les disparus d'Oran, qui est tout à fait intéressant, hein, qui donne les noms en particulier des disparus, et qui avait à l'époque évoqué l'hypothèse d'enlèvement et d'internement d'Européens dans l'Algérie indépendante. Alors après recherche et après enquête, parce que moi-même je me suis intéressé bien sûr à cette question, il n'y a pas eu d'internement de milliers d'Européens dans l'ouest algérien après l'indépendance du 5 juillet 62. Il y a eu des exécutions, c'est évident. Il y a eu des débordements de type mafieux, gangstérisés, cruels et terribles. Ça, c'est une évidence également. Mais de là, disons, à dire qu'il y a eu 15 000 ou 10 000, ou je ne sais pas quels sont les chiffres qui sont avancés, non. Non, il faut être très sérieux. Lorsqu'on avance les chiffres, il faut être extrêmement précis. Il y a eu plusieurs centaines d'Européens tués, ça c'est vrai, mais d'internement de longue durée, hein. C'est-à-dire de gens qui ont été arrêtés pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans dans l'Algérie indépendante. Pas à ma connaissance.
Oui, j'écoute depuis deux jours votre émission. Je suis fou de rage. Appelé en 1958 par Guy Mollet, blessé, aucune reconnaissance de la nation. Dans la mer jusqu'au cou. Parlez-nous. Quand est-ce que vous allez dire pardon aux pauvres appelés et prendre vos responsabilités aux 200 000 morts harkis, aux porteurs de valises du FLN qui trahissaient les appelés et les CGT qui fabriquaient les armes trafiquées pour que ça nous explose à travers la gueule. Pourriture de vivre.
Alors je vous écoute tous les soirs le 17 octobre 61. Moi j'étais pas là, j'étais en Algérie à faire la guerre, à faire ce que je pouvais. J'aimerais bien que on fasse le procès de De Gaulle donc, hein, parce que il a commis pas mal de trucs. Et puis même un petit peu avant, pour ce qui s'est passé, là, j'entendais le 3 mars 1956, là il faudrait faire le procès de Mitterrand, qui a été donc 11 fois ministre en 12 ans de 4e République, qui a été à tous les gouvernements et qui donc à ce titre est responsable de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis j'aimerais aussi, par la même occasion, qu'on parle un petit peu des 2 millions de petits jeunes comme moi qui à l'époque ont été passés leur jeunesse là-bas, qu'on parle des plusieurs centaines ou quelques milliers dont on a coupé les couilles pour leur poudre à la bouche, ça c'était le FLN, et puis qu'on nous parle aussi des charniers découverts pendant la guerre d'Algérie qui étaient donc l'œuvre du FLN, et puis des pauvres gens qui voulaient pas payer le FLN et qui étaient égorgés et éventrés. Les entrailles étaient donc enlevées des corps et remplacées par des cailloux. Ça, c'était l'œuvre du FLN. Pour être juste, il faudrait parler de tout ça. La France s'autoflagelle depuis 60 ans, bientôt, et il faudrait peut-être aussi un peu parler des autres, de ce qu'ils ont fait, quoi. Hein ? Au revoir.
Alors voilà, on sent beaucoup d'amertume, on sent de la rancœur dans ces appels. C'est vrai qu'il y a eu 2 millions de Français qui ont été appelés en Algérie. Alors, il y a quand même beaucoup de chiffres là. Un auditeur nous parle de 200 000 morts harkis. On évoque la CGT qui aurait fabriqué des armes truquées contre les appelés. Est-ce qu'on peut la repasser encore une fois de cette émotion à des précisions historiques ?
Déjà, ce que nous disent tous ces messages, c'est ce besoin de parole et toutes ces blessures autour de la guerre d'Algérie. Il y a un besoin de reconnaissance dans l'espace public sur la guerre d'Algérie, c'est évident. Il y a près de 3000 ouvrages qui ont été écrits sur la guerre d'Algérie. Il faut le savoir quand même. Près de 35 films ont été faits sur la guerre d'Algérie, mais ça suffit pas. Les mémoires saignent toujours. La production académique, la production scientifique, la production des historiens ne calme pas les mémoires, ne les apaise pas. Les gens ont besoin de pleurer, de parler, de crier, de se plaindre, d'expliquer qu'ils ne sont pas reconnus. Pourquoi ? Bien parce qu'il n'y a pas de commémoration de la guerre d'Algérie en France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de date commémorative. Donc il ne peut pas y avoir de frénésie commémorative sur la guerre d'Algérie. Il n'y a aucune date. Aucune date n'a jamais été retenue qui pourrait signifier quelque part la fin de cette guerre d'Algérie en France. Mmh. Alors on a essayé de provoquer des dates comme le 19 mars 62. Alors tous les mouvements associatifs pieds noirs ont récusé cette date, puisqu'après le 19 mars 62, il y a eu les massacres des pieds noirs à Oran, dont on a parlé tout à l'heure, donc ils ne veulent pas entendre parler du 19 mars 62. On a évoqué d'autres possibilités, d'autres dates, comme novembre, par exemple, le 5 novembre, ou je sais plus, enfin, il y a des tas de dates qui ont été proposées. Aucune n'a vu le jour jusqu'à présent, et c'est très très symbolique le fait qu'on ne puisse pas dire la fin de la guerre d'Algérie. Donc à partir de là, les mémoires continuent de saigner. Et ça, c'est très très important. On l'entend, on le perçoit à travers tous ces messages. Alors maintenant, essayons de clarifier sur le plan historique. Tout d'abord, sur les 200 000 Harkis tués, non. Il y avait officiellement 200 000 Harkis aux côtés de l'armée française. Et quand on dit le mot harki, c'est un terme générique, parce que c'est, il y avait les morasnis, il y avait les supplétifs, il y avait les villageois qui portaient des armes, il y avait les commandos qui combattaient à l'intérieur de l'armée française. Il y a différents types de ce qu'on appelle harki, qui est un mot qui vient de l'arabe, de harka, qui est les unités en mouvement. Donc ces compagnies ont été recrutées par l'armée française dès 1954-55 dans les Aurès. Et donc il y en avait à peu près 200 000, hein, qui ont au total été aux côtés de l'armée française. Donc on ne peut pas dire que 200 000 ont combattu et 200 000 ont été massacrés, sinon il n'y aurait plus de survivants. Donc ça c'est évident. Par contre, qu'il y ait eu des massacres de harkis après l'indépendance de l'Algérie, c'est une certitude, c'est évident. Il y a eu plusieurs milliers de harkis et leurs familles qui ont été massacrés à la suite donc de vengeance, de règlement de compte après l'indépendance de l'Algérie. Bien, il faudra une reconnaissance publique, peut-être étatique, pour dire la manifestation de solidarité de la France avec ces hommes qui ont combattu à ses côtés. Maintenant, il y a la date évoquée par un auditeur du 3 mars 56. Je pense qu'il fait allusion en fait au 9 mars 1956, c'est-à-dire le vote des pouvoirs spéciaux. Ces pouvoirs spéciaux qui avaient été proposés par Guy Mollet, c'est-à-dire par la SFIO, et ces pouvoirs spéciaux qui ont donc décidé l'envoi du contingent en Algérie. C'est de là que date l'envoi du contingent en Algérie. Auparavant, c'était pas tout le contingent qui était envoyé en Algérie. Donc les pouvoirs spéciaux marquent vraiment le tournant de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que toute la France est concernée par cette guerre, puisque tous les hommes du contingent sont envoyés en Algérie. Et il faut signaler, parenthèse, que contre ces pouvoirs spéciaux, les Algériens avaient déjà manifesté à Paris. Le 9 mars 1956, et cette manifestation totalement oubliée a été très très sévèrement réprimée. Alors elle était totalement oubliée, cette manifestation, des Algériens avaient aussi été jetés dans la Seine le 9 mars 1956, parce que c'était en fait des militants du MNA qui avaient manifesté, c'était des messalistes. Alors comme ils ont été vaincus de l'histoire par la suite, bon, on a oublié le fait qu'ils avaient manifesté le 9 mars 1956.
Vaincus de l'histoire, gommé de la mémoire.
Eh oui, donc disparu de la mémoire, donc c'est ainsi que s'écrit, ne s'écrit pas quelquefois l'histoire.
تبرتي مدي وروه الكار صفراء حول ما ينطر تبرتي مدي وروه الكار صفراء حول ما ينطر
le message que t'as reçu du regard a ressuscité ton espoir heureuse et fière d'avoir comme repère à l'emblée de Yéminem la reine berbère
Message que t'as reçu des durdura, comme une lumière de nouveau tu verras, ces chants de bataille transformant en chants d'amour éternel, parfois m'insoumeur ce beau visage de rebelle.
Pour filer provisoirement la métaphore du pitbull, les harkis. Mais sait-on harkis ? Ces machines à tuer, qui les a fabriquées ? Qui a dressé les Algériens contre des Algériens ? Qui les a lâchés en quittant l'Algérie ? Qui a parqué les survivants comme moins que des chiens ? La France ? Non. Certains Français. Que ceux-là prennent leurs responsabilités et cessent de s'abriter derrière nous en prétendant défendre notre honneur.
On parle beaucoup de harkis. Apparemment, puisqu'on a dit que les Algériens hommes ne communiquaient pas vraiment avec leurs fils, donc les fils ne sont au courant de rien s'ils ont vraiment participé à ce massacre. Donc comment, maintenant qu'ils le savent, comment le vivent-ils, au même titre que comment ont vécu toute cette génération de fils de nazis qui ne savaient pas trop, effectivement, à quoi s'en tenir. J'aimerais bien qu'on m'éclaire là-dessus. Au revoir, merci.
Question sur un répondeur. À la suite des émissions que nous avons consacrées au 17 octobre 1961, vous avez été très nombreux à prendre d'assaut notre malheureux petit répondeur. Et voilà, alors pour s'en sortir, on a botté en touche en faisant venir un historien, parce qu'il est absolument incompétent pour répondre à tout ça, Benjamin Stora, qui est spécialiste de ces questions. Alors là, c'est les harkis du 17 octobre dont il est question, les calots bleus, qui a dressé les Algériens contre les Algériens, on parle de pitbull. Et puis là, il y a une comparaison qui est quand même un peu dure entre fils de harkis et fils de nazis.
Il y a beaucoup, effectivement, de questions, là. Bon, je crois qu'il faut pas comparer les nazis et les harkis. Enfin, bon, sinon, on s'en sort plus, quoi. C'est, il y a des singularités historiques qu'il faut respecter, hein. Bon, le nazisme est un système très particulier d'extermination génocidaire. Bon, les harkis sont des forces supplétives aux côtés de l'armée française. Il faut d'abord bien s'entendre, d'ailleurs, sur ce qu'ont été réellement ces harkis. Il faut pas, confondre les harkis d'Algérie avec les harkis de Paris. C'est compliqué. Les harkis d'Algérie, ce sont des villageois à qui on a donné un fusil pour aller vite et qui, pour la plupart d'entre eux, ne savaient même pas parler le français. Même l'arabe, enfin, la plupart savaient parler le kabyle ou le chaoui, enfin, les dialectes locaux, des montagnards, des paysans, des villageois, et qui avaient pour objectif de défendre leur terre contre ceux qui voulaient s'approprier ou manger sur leur terre, comme on disait à l'époque. Bien. Donc c'est ça essentiellement les harkis. Mais à l'intérieur de ce vaste ensemble de supplétifs, il y a des commandos qui ont été formés par l'armée française pour infiltrer les maquis de la LN, pour commettre des exactions qu'on mettait ensuite sur le dos de la LN, en disant c'est la LN qui a fait tel massacre de village. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série d'intoxications et de manipulations très savantes, organisées d'un côté comme de l'autre, aussi par l'armée française, c'est très clair. Il y a eu toute une série de commandos déguisés en maquisards de la LN qui venaient la nuit frapper aux portes des villages pour tester de la fidélité de ces villageois à la France. Et si ces villageois, en fait, ouvraient à ces pseudo-maquisards, ben, ils se faisaient liquider, hein, par ces pseudo-maquisards. Donc ça, ce sont les harkis d'Algérie. Bien. Et puis, il y a les harkis qui ont été emmenés d'Algérie vers la France et incorporés au sein des unités policières parisiennes, en particulier par Maurice Papon. Alors, les témoignages sont extrêmement nombreux d'Algériens vivant à l'époque à Paris dans la région parisienne pour stigmatiser l'attitude de ces commandos de harkis, qu'il ne faut pas confondre avec les harkis d'Algérie. Alors, vous voyez que c'est un peu compliqué. Et qui effectivement, ont usé à leur tour de méthodes extrêmement dures et cruelles à l'encontre des militants de la Fédération de France du FLN. Et cette Fédération de France du FLN, à son tour, s'est vengée contre ces harkis et a effectivement tué des harkis qui combattaient au sein de la police parisienne. Donc il y avait cette bataille, surtout à partir de 1961, à partir du début de l'année 1961. Donc c'est très compliqué, tout. Enfin, il y a une bataille dans la bataille. Mais je voudrais dire quand même, pour prendre un petit peu de recul historique sur tout ça, c'est que si cette guerre d'Algérie a été si dure, si cruelle, si compliquée, avec tant de douleurs 40 ans après, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a été française pendant 132 ans. Et que c'était pas le Maroc, l'Indochine ou le Sénégal. C'était trois départements français. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de guerre sans nom, parce que comment la France pouvait-elle se déclarer la guerre à elle-même, puisque l'Algérie c'était la France, selon le mot de François Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Pierre Mendès France. Donc il y a par conséquent une complexité algérienne très forte, dans la mesure où il y a une énorme présence européenne en Algérie, près d'un million de personnes qui sont nés en Algérie. Et c'est ce qui va compliquer à l'extrême le problème algérien. Ces gens se sentent comme appartenant à cette terre algérienne. Je parle des Européens. Et en même temps, il y a 9 millions d'Algériens musulmans qui se sentent privés de tous les droits. Et qui ils se vivent dans cette situation d'infériorité, de ce qu'on appelle de l'indigénat. Il y avait cette situation d'inégalité juridique qu'on ne peut pas nier quand même. C'est pas possible. Bon. Donc à partir de là, il y a cette extraordinaire tragédie qui va se nouer à partir de 1954-55, où on va assister d'un côté à ceux qui disent, bien, nous voulons être des hommes libres, bon, accéder à l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance de notre pays, ce sont les Algériens musulmans pour une grande partie d'entre eux, et puis il va y avoir les Européens d'Algérie qui eux aussi se sentent et se vivent quelque part comme Algériens, comme appartenant à cette terre, qui ne sont pas tous des grands colons, hein. La plupart des pieds noirs ont un niveau de vie inférieur aux habitants de métropole. Ce sont des choses qu'il faut savoir.
On l'a oublié.
Ce sont les parents d'Albert Camus. Je veux dire, bon, qui sont des gens très pauvres. Enfin, qui est issu d'un milieu très humble. C'est ce qui explique d'ailleurs tout ce déchirement de Camus pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire cette espèce de tiraillement entre la fidélité à la mémoire de sa mère, comme il l'a dit lorsqu'il a reçu son prix Nobel, et puis cette espèce d'attachement à sa terre natale de l'Algérie. Donc c'est cet embarras qu'il a manifesté sur le problème de l'indépendance algérienne, parce qu'il sentait bien que l'indépendance algérienne signifiait la fin de sa propre communauté. Donc il était pris dans cette contradiction incroyable, tragique, terrible, cruelle. Donc le drame algérien de cette guerre ne peut pas être compris indépendamment des circonstances dans lesquelles la France a instauré sa présence en Algérie. 132 ans. Et puis tout d'un coup, voilà le général de Gaulle qui, en quelques mois, décide l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que les négociations s'ouvrent en novembre 61 et paf, 18 mars 62, accord d'Évian. C'est-à-dire qu'on va se retirer d'Algérie en 4 mois. C'est ça qui est extraordinaire. après 132 ans de présence. Et ça a été une période de sauve-qui-peut et de panique généralisée. Les Pieds Noirs se sont enfuis massivement. Après la fusillade terrible de la rue d'Isly qui a fait 46 morts et près de 200 blessés. Il y a donc les Pieds Noirs qui s'enfuient, c'est l'exode des Pieds Noirs, près d'un million. Les Harkis qui ont très très peur, qui sentent qu'ils ne sont plus protégés, qui sentent qu'ils vont être massacrés. Il y a bien entendu les luttes politiques à l'intérieur du FLN qui redoublent d'intensité à l'approche de la prise du pouvoir. Donc il y a une espèce de chaos politique entre le mois de mars et le mois de juillet qui est extrême en Algérie. Et le général de Gaulle a la question qu'on lui pose, mais mon général, que va-t-il se passer pour les Européens d'Algérie? Et le général de Gaulle a cette phrase terrible, eh bien qu'ils souffrent. Donc c'est une phrase authentique, bon, qui a été répétée et relevée dans différents ouvrages d'histoire. C'est-à-dire que le général de Gaulle, à cette époque-là, veut se débarrasser du fardeau algérien. Très très vite, très 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 vite. Et à partir de là, on a 132 ans de présence coloniale qui se traduisent par des phénomènes d'acculturation linguistique, y compris des populations musulmanes. Le problème des 200 000 harkis, la question de l'immigration algérienne en France, le problème des pinards. Oui, c'est immense tous ces problèmes de population qui touchent des millions de personnes. Tout ça est réglé en 3 mois. À partir de là, la France part en vacances le 5 juillet 62, la page est tournée, c'est la société de consommation, tout va très très vite, et on dit l'Algérie c'est fini. Eh ben, tout ressort. Les appelés, la mémoire de ceux qui ont combattu, 28 mois dans les djebels, les Algériens qui ont souffert de cette guerre. Et bon, puisqu'on fait aujourd'hui une espèce de déclinaison de toutes les mémoires de la guerre d'Algérie, ben, n'oublions pas quand même que le groupe qui a le plus souffert de cette guerre d'Algérie physiquement, en termes de victimes, tout simplement, eh bien, ce sont les Algériens. Il y a des centaines de milliers d'Algériens qui ont été tués.
Oui, bonjour Daniel Mermet. Ici Alain de Corbelin dans l'Isère. Moi, par rapport à tout ce que j'ai entendu là ces jours-ci, et par rapport à ces journées du 17 octobre, il y a une chose qui m'interpelle et que j'aimerais qu'on pose comme question, c'est les médias là dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils ont été quand même bien bâillonnés et ils n'ont pas fait peut-être un peu leur devoir de recherche à ce moment-là. En tout cas, je te remercie pour tes émissions parce qu'elles sont super sympas et très intéressantes. Enfin.
Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi, pendant les 130 ans de présence de la France en Algérie, les musulmans ont été si peu alphabétisés. On pouvait le voir dans les années 50, lorsqu'ils allaient travailler à l'usine et lorsqu'ils devaient remplir des papiers, ces fameuses usines où se pratiquaient les 3-8, et où les Algériens ne pouvaient plus aller le soir à partir du couvre-feu du 5 octobre. Merci. C'était Lisette de Marseille.
Quand même, Benjamin Stora, c'est vrai, 130 années de présence française, pacificatrice, etc. Un niveau d'alphabétisation très réduit.
Oui, parce qu'en fait, à partir de 1871, la France installe des écoles en Kabylie essentiellement. Puis ensuite, ça va s'étendre, mais surtout après 1945. L'alphabétisation pour les Algériens musulmans, c'est après 45. Donc il y avait une élite très faible, capable de jouer une force, disons, intermédiaire entre les nationalistes algériens radicaux et les tenants d'un pouvoir pur et dur du système colonial. Bon, ça a été un des grands problèmes auxquels s'est confrontée d'ailleurs l'armée française sur le terrain à partir de 56-57. Lorsque l'armée française arrive en Algérie massivement, elle se trouve face à un pays sous-administré avec une élite musulmane très faible. Il y a beaucoup d'officiers de l'armée française, en particulier des SAS, ce qu'on appelle les officiers des SAS, qui vont tenter de mettre en place cette espèce de troisième force à partir des années 56, 57, 58. Mais c'est déjà très tard, trop tard. Après 100 ans ou 120 ans de présence française, eh bien, le FLN, la LN, enfin le nationalisme algérien dans sa version radicale, a déjà bien imprégné les esprits. Et ça semble déjà, et ça apparaît déjà comme une manœuvre très tardive. Mais ces officiers français ont bien pris conscience quand même de la faiblesse de cette mission française en Algérie et de ce temps perdu.
Il y a un auditeur qui évoque, pendant les événements du côté français, effectivement, la presse était bâillonnée, il y avait des interdictions, une censure de la presse qui était très très forte France.
Ah oui, la France a connu sa plus grande période de censure de son histoire pendant la guerre d'Algérie. Il y avait bien sûr la censure de journaux comme L'Humanité, Le Canard Enchaîné, France Observateur, L'Express.
Témoignages chrétiens
qui étaient saisis systématiquement, et bien sûr, tous ces journaux que je viens de mentionner n'étaient pas diffusés en Algérie.
Bonjour, Gilbert, à Saint-Médard-en-Jalles, auprès de Bordeaux. Pourquoi ne pas parler du 8 mai 45, Sétif, 114 colons et instituteurs français tués. Répression, 9 à 10 000 Algériens oxy. 8 mai 45, une guerre s'achève, une autre commence. Car c'est là le point de départ. Pourquoi ne pas demander pardon aux Malgaches ? Suite à un soulèvement fin mars 47, 14 ans plus tôt que 61, la République française, par président du Conseil socialiste à l'époque interposé, va massacrer 100 000 Malgaches. 100 000. Pourquoi n'en parle-t-on pas ?
Benjamin Stora, réponse à, est-ce que vous avez des éléments de réponse à toutes ces précisions, à toutes ces observations? 8 mai 45, à Sétif, 110 colons massacrés, c'est vrai, exact?
Oui.
Est-ce qu'il faut évoquer Sétif quand même?
Oui, Sétif, le 8 mai 45, jour de l'armistice, les Algériens décident de manifester pour réclamer la libération de Messaliage. Il y a un coup de feu qui est tiré contre un porteur de pancarte, Sétif. C'est le début d'un soulèvement spontané des Algériens, et donc effectivement massacre des Européens et répression terrible avec l'aviation qui est utilisée et puis les bateaux qui tirent à l'aveuglette sur la côte algérienne. Donc on a par conséquent une répression terrible, hein, de plusieurs milliers d'Algériens. Alors, le 8 mai 1945, ça c'est évident.
9 à 10 000 victimes.
Oui, ça c'est énorme, c'est considérable. Et nous avons par conséquent le début, hein, de la guerre d'Algérie, effectivement, qui commence, parce que le fossé se creuse de manière quasiment irrémédiable entre les Européens d'Algérie et les Algériens musulmans. Et puis une nouvelle génération d'Algériens rentre en scène, qui veut faire du principe de la lutte armée un principe absolu, hein. C'est-à-dire que c'est Sétif qui provoque cela, ça c'est évident.
Alors l'auditeur évoque effectivement la répression à Madagascar en mars 47, 100 000 victimes, ça me semble excessif, mais il y a eu effectivement une répression très violente.
Oui. Enfin, on pourrait soulever, enfin là, il nous reste quelques minutes, on pourrait soulever le couvercle sur toute une série d'aspects aussi, des dossiers noirs de la République, de la 4e République. Il y a un ouvrage d'ailleurs excellent d'Yves Benoît sur cette question-là.
Massacres coloniaux.
Voilà, hein. C'est ça, aux éditions La Découverte. Il y a par conséquent aussi le bombardement d'Haïphong en 46, en Indochine, qui est très très important. Bon, il y a la répression de Sétif en 47-48. Bref, on a affaire à une histoire...
En vous écoutant, Benjamin Stora, on s'est dit, ça fait quand même beaucoup de trous de mémoire. Il faut quand même que tout ça serve à nous éclairer le présent. On a entendu, on sent bien que derrière certaines interventions d'auditeurs et des interventions qu'on n'a pas eu le temps de passer, qu'il y a vraiment des gens qui votent pour le Front National et qui interviennent là-dessus. Quel lien vous faites entre ce qu'on a évoqué, ce que vous avez évoqué aujourd'hui, et le Front National?
Oui. Enfin, ou bien... On vit sur une mémoire traumatique de la guerre d'Algérie, on ne la finit pas, on la rejoue en permanence, hein, contre les Algériens, en particulier en France, ou bien on décide d'en finir, c'est-à-dire de tourner cette page, sans l'oublier bien sûr. Or le Front National joue sur cette guerre sans cesse rejouée, c'est-à-dire en fait il met en scène une mémoire de la revanche. Par rapport à la guerre d'Algérie, et c'est ça qui est intolérable. C'est ça qui est, à mon sens, qui est intolérable. C'est-à-dire qu'il faut en finir, il faut tourner cette page, non pas, ça veut dire oublier, hein, mais ça veut dire assumer, regarder, mais sans vouloir à chaque fois répéter et rejouer la guerre d'Algérie aujourd'hui. Ça, c'est pas possible, c'est pas tolérable.
Comment vous pouvez faire pour ne pas avoir d'ennemis tout en étant un homme de conviction?
Je n'ai que des ennemis. Je n'ai que des ennemis. Parce que quand on a fait l'inventaire de tous les groupes porteurs de la mémoire algérienne, chaque groupe a sa revendication.
Chaque groupe a sa valise.
Chaque groupe a sa date, a sa commémoration, a sa blessure, a sa cicatrice, a sa plaie béante. Et à chaque groupe, il faut répondre. Mais en mentionnant quand même une chose, et c'est ma conviction, c'est, je pense que le vent de l'histoire, c'était que l'Algérie devait être indépendante. C'est ma conviction personnelle de citoyen. À partir de là, bien sûr, on peut estimer, réfléchir sur les conditions de passage à cette indépendance qui peut-être ont été mal faites, c'est évident, mais n'essayons pas de freiner le vent de l'histoire.
Voilà, c'était un entretien avec Benjamin Stora en 1997. On a cru devoir vous le présenter à nouveau en se disant que assez peu de choses ont changé, mais pour finir sur une note un peu encourageante, un ancien de l'ALN, Judy Atoumi, de l'Armée de Libération Nationale, donc algérien, nous dit qu'il a fait connaissance avec les 4 ACG. Qui c'est les 4 ACG? C'est les anciens appelés en Algérie et leurs amis, 4A.
CG contre la guerre. Et c'est un regroupement, bah, vous avez compris, d'anciens combattants d'Algérie qui ont décidé de ne pas toucher leur pension, ou du moins de récupérer leur pension pour des soutiens. Voilà, mais c'est un rapprochement encourageant. Merci à Benjamin Stora, à Mehdi Lalaoui, à tous ceux qui étaient hier soir dans la manif pour le 50e anniversaire des massacres du 17 octobre. C'était un reportage d'Antoine Chao. La gangrène et l'oubli, le bouquin de Benjamin Stora a été réédité en 2005. Beaucoup de livres sur ce sujet. On a oublié de citer Paris 1961 de Jim House et Neil McMaster aux éditions Talendier. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire des commentaires sur ce site. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny, Rémi Quincé, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Maman, dans ton boulot, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin des employés?
Pause obligatoire toutes les heures, histoire de faire quelques exercices de gym des yeux. Droite, gauche, droite...
Non.
Non, je rigole. Mais avec le contrat Malakoff-Médéric, on s'occupe vraiment de la santé des salariés. Par exemple, on bénéficie de leur réseau d'opticiens agréés.
Malakoff-Médéric prend soin de vos salariés. Avec notre réseau d'opticiens agréés, nous assurons ce qu'il y a de mieux, tout en réduisant leur reste à charge. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir.
Du 15 au 21 octobre, venez à la fête de l'énergie pour faire le plein de conseils auprès de votre espace info énergie et réaliser des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur infoenergie.org ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Emema, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels?
Pour moi, oui. J'ai eu un incendie dans mon local professionnel. Je devais absolument redémarrer mon activité au plus vite pour couvrir mes charges et préserver mon bénéfice. La solution, fallait la trouver.
Et alors?
Zéro tracas. Emema l'a fait. Ils ont pris en charge tous les dommages. Local, stock, matériel et mes pertes d'exploitation.
Emema l'a fait?
Bien sûr. C'est qui les clients pros?
C'est nous! Zéro tracas, zéro blabla, Emema.
Offre soumise à condition.
France Inter, partenaire de l'exposition au Royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique. Au musée du Louvre jusqu'au 16 janvier 2012. Un souverain de légende, des découvertes archéologiques récentes et exceptionnelles, le Louvre vous invite à la découverte de la Grèce du Nord et de ses trésors dans une exposition rassemblant près de 500 œuvres. Retrouvez l'exposition au Royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h01 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet.
Gilad Shalit présente des signes de malnutrition et de manque d'exposition au soleil. C'est ce que dit un responsable militaire israélien. Dès sa libération ce matin, le soldat franco-israélien était vu par un médecin. Depuis, il a retrouvé ses parents au sud d'Israël. Ça faisait 5 ans qu'il était retenu en otage par le Hamas à Gaza. En contrepartie de sa libération, Israël a libéré plus de 400 prisonniers palestiniens. Ceux-ci ont rejoint pour partie la bande de Gaza aujourd'hui, où ils ont été accueillis comme des héros. À Paris, à l'Assemblée nationale cet après-midi, François Fillon a fait part de sa grande émotion. Nicolas Sarkozy a lui évoqué un grand soulagement. Gilad Shalit sera, dit-il, prochainement reçu à Paris. Des élèves et des professeurs dans les rues de Béziers cet après-midi. Plus de 2000 personnes ont participé à une marche blanche en hommage à la professeure qui s'est immolée la semaine dernière dans la cour d'un lycée de la ville. Un autre rassemblement est prévu demain à Montpellier. Il devrait prendre un tour plus revendicatif sur les conditions de travail des enseignants. Autre manifestation à Paris aujourd'hui, plusieurs centaines de lycéens ont défilé pour dénoncer la casse dans l'éducation avec les suppressions de postes. Il s'agissait d'un mouvement spontané. La conférence des grandes écoles dénonce aujourd'hui la circulaire du 31 mai visant à limiter l'immigration professionnelle. Elle a amené cet après-midi au ministère de l'Intérieur 150 dossiers d'étrangers diplômés en France ayant essuyé un refus de travailler sur le territoire alors qu'ils avaient signé un contrat de travail. Par cette action, la conférence des écoles veut montrer les effets injustes pour les diplômés étrangers et pour les entreprises françaises. Michel Mercier persiste et signe. Le ministre de la Justice a expliqué aujourd'hui pourquoi il avait proposé la candidature de son directeur de cabinet au poste de procureur de Paris. Tout simplement, dit-il, parce que François Molins est un bon professionnel. Les syndicats dénoncent dans cette candidature une décision éminemment politique et un signal très inquiétant de verrouillage des affaires sensibles. Le Brésil a besoin urgent d'avions de combat, c'est ce qu'a dit ce matin le ministre de la Défense brésilienne lors d'un entretien à Paris avec son homologue Gérard Longuet. Celso Amorim ne dit pas toutefois si Rio envisage d'acheter des rafales de Dassault Aviation, mais il n'exclut pas une décision rapide dès la fin de l'année. Il ne fait pas beau au nord de la France, mais en Corse, il fait toujours bon et le problème, c'est que la pluie ne tombe toujours pas. Conséquence, la collectivité territoriale Corse a décidé aujourd'hui de débloquer en urgence 1 million d'euros et une avance de trésorerie pour les 1700 éleveurs d'ovins et de caprins. Et selon la FNSEA, la situation est tout aussi dramatique sur le continent, de l'Aquitaine au Massif central, en passant par le Midi-Pyrénées et la Côte d'Azur. On sait tout aujourd'hui du Tour de France 2012 et cette fois c'est officiel. Il partira de Belgique, prologue à Liège le samedi 30 juin. Il comportera 3 contre-la-montre et 3 arrivées en altitude. Mais pas de changement pour la dernière étape, pardon, elle terminera toujours par les Champs-Élysées. 20 chambres avec vue panoramique sur la mer, espace généreux pour un hélicoptère, plateforme pétrolière à vendre. C'est l'annonce originale du groupe pétrolier norvégien Statoil. Conséquence d'un gisement bientôt épuisé, il souhaite vendre sa plateforme Uldra située dans la mer du Nord. Et le prix n'est pas élevé, une couronne, soit 13 centimes d'euros. Mais il reviendra au propriétaire de couvrir les coûts de déplacement et des travaux. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Tous les jours, à partir de 11h, les affranchis.
Public de feu, bonjour.
Isabelle Giordano.
Bon, vous avez jusqu'à midi et demi. On va peut-être pas le coincer.
Allez, je révise.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des affranchis avec leurs invités, Camille, Marjane Satrapi et Mathieu Amalric, en direct du studio 106.
J'adore ça qu'on me donne des conseils. J'adore.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la maison de Radio France.
Non, restez.
Vous réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des affranchis. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Et pour l'heure, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Certains disent que la musique doit être pure, c'est-à-dire ne rien décrire du tout, qu'elle se suffit à elle-même, que c'est une construction pour l'esprit, pour le cœur, pour les sens. Et pourtant, il y a beaucoup de musique descriptive, et heureusement, parce que ça met du piment. Par exemple, François Couperin a écrit plein de pièces, il a installé là quelques mystères, parce qu'il y a des titres qu'on ne comprend toujours pas. Dans La Triomphante, bien sûr, les bruits de guerre, tout le monde, malheureusement, sait ce que c'est, et Alexandre Tarot joue ce passage, accompagné au tambour par Pablo Picot. de François Couperin est tiré de la pièce pour clavecin La Triomphante. C'était Bruit de guerre, interprété au piano par Alexandre Tarot et au tambour par Pablo Pico. Évidemment, les animaux ont donné aussi l'inspiration aux hommes de les imiter. Et la flûte ou le violon se rapprochent beaucoup des oiseaux, quand les instrumentistes le veulent, ou les compositeurs. Et ainsi, Antonio Vivaldi a écrit pas mal de fois des musiques descriptives. Les saisons sont les plus connues, les quatre saisons. Il y a un rossignol et puis un chardonneret, qui est vraiment un des chevaux de bataille des flûtistes, et même quelquefois des violonistes. Enfin, voici une version pour flûte, Allegro.